Voici qu'aujourd'hui, nous vous proposons de partir à la découverte du corps humain.
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit.
Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille?
Ah, ça me chatouille.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série musicale et médicale. Toute la semaine, nous explorons le corps humain et délivrons nos ordonnances discographiques.
Votre corps vous questionne, votre corps vous obsède, il est cette demeure que vous habitez sans vraiment la connaître. Et pourtant, vous êtes votre corps et votre corps, c'est vous.
Mais il arrive qu'il vous échappe, qu'il vous éprouve, et c'est le monde entier qui s'écroule, comme en témoignent les millions de messages anonymes échangés chaque jour sur les forums de santé.
Vous savez, cette tache noire qui apparaît sur votre épaule, cette toux qui vous harcèle dans le tas de bronches, cette douleur au bras quand vous fermez la main gauche.
Nous répondrons à ces questions qui vous obsèdent. À chaque organe, sa mélodie, à chaque maladie, son refrain. Bonjour David.
Bonjour Romain.
Comment ça va aujourd'hui?
Il fait un peu chaud aujourd'hui, non? Autant le froid, moi, je supporte sans problème, autant quand il fait chaud... J'inspire et j'ai l'impression que l'air reste bloqué là au niveau de ma trachée. Alors je prends sur moi parce qu'en fait je sais quand même que je suis pas en crise de panique, que je respire, mais j'ai le cœur qui se met à battre très très vite, 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 vite et j'ai peur qu'il fasse.
Boum! David, vous l'avez reconnu. En 2004, Madonna en personne enregistrait une reprise du classique de Charles Trenet pour une comédie musicale qui malheureusement ne verra jamais le jour.
Ce n'est pas la première fois que ce morceau de 1938 fait l'objet d'une reprise, certaines étant moins heureuses que d'autres. Puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, la propagande nazie elle-même, la propagande nazie, la détourne pour menacer les alliés en racontant sur cet air sautillant le bombardement d'un navire américain. Le morceau est assuré par Charlie and His Orchestra, un big band allemand également surnommé, attention, Mr. Goebbels Jazz Band.
Boom, why did my ship go boom? Me and my ship go boom, boom diddy boom, and founder.
Dans les années 60, le morceau redeviendra un hymne à la joie de vivre et Charles Trenet restera dans le coup. Il ne rejoindra jamais la cohorte des chanteurs démodés et poussiéreux. Higelin dira même de lui, sans Trenet, nous serions tous des comptables.
Avoir le cœur qui fait un peu trop boum affole parfois les internautes qui ne peuvent s'empêcher de partager leurs angoisses sur la toile, comme c'est le cas de Clément78.
Depuis presque 2 ans, je fais une fixette sur le fait que mon cœur bat fort. Pas vite, mais fort. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que je vois à l'œil nu mon pouls un peu partout sur mon corps, là où passent les artères. Donc je vois mon cœur battre sur ma peau, dans le pli du cou, sous les aisselles, dans le creux des chevilles, sur le poignet. J'ai un peu peur de l'hypertension, car quand je vois l'appareil, je stresse à mort direct. J'ai vu des médecins et des cardiologues, pour eux, c'est le stress. J'aimerais vraiment savoir si d'autres voient leur pouls à l'œil nu. Je serais rassuré, car je peux pas vraiment vérifier sur toutes les personnes que je croise, on va me mettre dans un asile.
Cher Clément78, profitez de votre jeunesse. Si votre cœur bat sur l'ensemble de votre corps, faites donc battre votre corps au rythme de votre cœur. Dansez, courez, sautez, smurfez, secouez-moi tout ça et n'oubliez pas, heureux homme, puisque le groove est dans le cœur, le groove est partout chez vous.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Un morceau que Herbie Hancock avait composé pour Blow Up, le film d'Antonioni.
Moi, ça me rappelle autre chose. Delight, le groove est dans le cœur. Cet hymne de 1990, arme fatale de DJ désemparé, machine à sauver des soirées apathiques, fut le seul succès de ce groupe américain qui a enflammé les clubs de New York avant de conquérir le monde. Avant de l'enregistrer, le groupe avait eu l'idée lumineuse d'en envoyer une cassette à Bootsy Collins, membre du groupe culte Funkadelic.
Bootsy Collins, qui était également le bassiste de James Brown, non ?
Oui, sauf que James Brown l'aurait viré parce qu'il aurait été pris d'hallucination sur scène après avoir consommé du LSD. Collins n'a jamais vraiment démenti. Il racontait qu'il avait seulement éclaté de rire alors qu'il se faisait sermonner par le Godfather. et qu'on ne rigole pas devant le Godfather.
Mais pour en revenir à notre morceau, il a tellement aimé la cassette, Bootsy Collins, qu'il a supplié Delight de l'attendre avant d'entrer en studio. Il voulait essayer une nouvelle ligne de basse et convier quelques copains. C'est comme ça qu'il s'est pointé avec Maceo Parker et Fred Wesley, sous le regard médusé du groupe qui avait quand même embauché un membre de A Tribe Called Quest pour le rap du milieu. Reste que la pharmacopée new-yorkaise est plutôt contre-indiquée en cas de tachycardie. Les palpitations euphoriques qu'elle provoque nous emballent encore 30 ans plus tard.
Pour apaiser notre fréquence cardiaque, rien ne vaut une veste de velours épais, un bon feu de bois et un harmonica.
Et on continue ce voyage autour du cœur humain avec Neil Young. Neil Young qui nous raconte ici que plus il vieillit, plus il continue sa quête d'un cœur d'or à travers les océans, sous la terre.
Dites-moi David, pour une émission précisément sur le rythme cardiaque, c'est pas un peu tarte comme parole ?
Alors je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord, même si le magazine Rolling Stones s'en moquait ouvertement et parlait d'une complainte adolescente, d'une rare mièvrerie. Personnellement, entre le magazine Rolling Stone et Neil Young, j'ai fait mon choix. Le morceau est quand même devenu le plus grand succès de Neil Young, qui sera le premier artiste canadien numéro 1 aux États-Unis. Il l'avait écrit non pas sous le signe de son cœur, mais sous les mauvais auspices de son dos, puisqu'à l'époque, en 1971, il a tellement mal qu'il ne peut plus porter sa guitare électrique.
C'est pour cela qu'il composera Harvest avec une guitare acoustique, totalement défoncée aux analgésiques. C'est l'un des morceaux d'ailleurs où l'influence de Dylan est la plus évidente. Ça ne plaisait pas du tout au futur prix Nobel qui s'en plaignait. Je déteste entendre ce titre à la radio. J'ai toujours aimé Neil Young, mais ça me dérange à chaque fois que j'écoute Heart of Gold. On dirait moi. Si ça me ressemble tant, c'est qu'en fait ça devrait être de moi.
Respirez un grand coup, Bob. Oubliez le passé et remplissez votre cœur d'amour. Vous verrez, ça passera tout seul.
J'aurais dû faire ça.
Your heart with love today. Don't play the game of tag. Things that happened in the past only happened in your mind, only in your mind. Oh, forget your mind and you'll be free, yeah. The writing's on the wall. Free, yeah. And you can know it all if you choose. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love cleans the mind and makes it free. Happening. Dragons have been bled. Gentleness is everywhere. Fear is just in your head, only in your head. Fear is in your head, only in your head. So forget your head and you'll be free. The writing was on the wall. Free, yeah. And you can know it all if you choose. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love will clean your mind and make you free.
Feel Your Heart de David Bowie. Contrairement aux albums du jeune Bowie, Hunky Dory est un disque dans lequel on trouve assez peu de personnages au destin bizarroïde. Point ici de Man Who Sold the World, de Starman ou de Ziggy Stardust, mais des chansons en forme de préceptes philosophiques. Changes traite de la nécessité de remodeler constamment sa personnalité avant que le temps ne nous ronge. Life on Mars, sublime rêverie dénonçant la justice divine et la justice des hommes. Andy Warhol, précis de philosophie esthétique sur l'avant-garde picturale. Et Feel Your Heart, le morceau qu'on entend ici, la chanson que nous, le morceau que nous venons d'entendre et qui prône une philosophie post-hippie gentiment fleur bleue sur laquelle est venue s'épanouir une mélodie particulièrement easy listening.
Est-ce vraiment du Bowie? Voilà 25 ans que je crois, mais grâce à vous David, j'apprends aujourd'hui qu'il s'agit d'une composition de Biff Rose, un scénariste de télévision américain, accessoirement chanteur. Aucun second degré ici, à l'exception d'une façon très écossaise de rouler un R. Sur démonstration.
Free, yeah.
Le rigolo Raoul renvoie le rouge rôti, tu vois.
C'est pas ça.
Histoire de nous suggérer qu'il n'est point de liberté sans un brin d'humour. Bowie nous conseille ici de remplir notre cœur d'amour pour nous délivrer enfin des griffes du passé, être libre et répandre la gentillesse sur terre. Difficile de le contredire, non? À moins que vous n'ayez encore déniché sur votre forum favori un poste si angoissé qu'il nous éloigne invraisemblablement de l'amour.
Message sérieux et évidemment anonyme. J'ai toujours eu la mauvaise habitude de manger mes crottes de nez. Je voudrais savoir s'il y a un moyen de s'en débarrasser, des risques pour la santé et s'il existe un nom à ce trouble. Ça a forcément un nom quand on voit qu'il y a un nom à la manie de se manger les bulbes des cheveux. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir ce problème malgré mes 30 ans. Après tout, on voit beaucoup d'enfants faire ça. Évidemment, beaucoup moins d'adultes. Mais les enfants deviennent grands et ont une grande chance de garder leurs sales habitudes.
C'est presque une philosophie de vie. Alors pour les plus curieux d'entre vous, le trouble qui consiste à manger les cheveux qu'on s'arrache se nomme la trichophagie. Ceux qui mangent leurs morves sont des mucophages. Sinon, cher internaute, on ne sait trop quoi vous dire. Trouvez peut-être le courage de Juliette qui a bien trop d'émoi à dénicher ses trésors faits de poussière et d'or.
Tu me dis mon amour, plus de 20 fois par jour, que ce n'est pas élégant et très peu ragoûtant. Mais vois-tu ces ballots, je ne suis pas comme il faut, et je peux pas m'empêcher à longueur de journée mettre mes doigts dans mon nez. J'ai malgré moi bien trop d'émoi à dénicher ces trésors de poussière et d'or. posséder aux voluptés de mes doigts et de mon nez. Mon amour, je l'avoue, j'aime ce doigt de mystère, ambigu, sans tabou. Ce plaisir nécessaire doit rester une affaire solitaire, autrement c'est vulgaire. Pour autant, je le fais pas en secret dans le noir, et l'on me surprend parfois avec ou sans mouchoir sur scène à la télé, égaré quelques doigts dans mon nez. Malgré moi, bien trop de moi à dénicher ces trésors de poussière et d'or pour ne pas céder aux voluptés de mes doigts et de mon nez. Autant de poésie collée sous le clavier ou semée dans Paris. Je me tire les vers du nez, mon doigt trouve la rime féminine au fond de mes narines. C'est la preuve agaçante de mes facilités, savante en dilettante, vraiment décontractée, maniant le subjonctif, l'air naïf et les doigts dans le pif. Il eût fallu que j'eusse bien peu d'émoi à dénicher ces trésors de poussière et d'or pour que je ne cédasse point aux voluptés de mes doigts et de mon nez.
Juliette qui peut vraiment écrire sur tous les sujets du monde. En ces temps d'épidémie, on lui suggère d'ailleurs de bien désinfecter les touches de son piano, même si ce qu'on vient d'entendre est une guitare, voire un banjo. Mais comme elle joue du piano, on lui suggère de bien désinfecter les touches de son piano avant de se mettre les doigts dans le nez et vice-versa. On a beaucoup glosé chez les musiciens sur ceux qui transmettraient le plus le coronavirus. Les soufflants dans les orchestres, les flûtes, les bois, les cuivres se sont vus souvent ostracisés, voire dégagés des plateaux quand les instruments à cordes étaient nettement plus sollicités. Les ensembles de musique de chambre, par exemple, ont beaucoup moins de mal actuellement à jouer que les orchestres philharmoniques ou que les groupes de funk.
Plusieurs études médicales ont été menées, notamment auprès de l'Orchestre philharmonique de Vienne. Leurs conclusions sont univoques, les instruments à vent souffrent de préjugés nettement plus dangereux que les postillons. Un trompettiste, par exemple, ne projette que très peu de particules et pas plus loin de 80 cm.
Jouez donc, trompette, c'est... Qu'en est-il néanmoins pour les instruments dont on joue avec son nez?
Vous pensez à...
Je pense à ces petits sifflets dans lesquels on souffle avec une narine et qui servent essentiellement d'appôt. Existent aussi des flûtes nasales, surtout utilisées pour des exercices de respiration. Et puis, il y a Roland Kirk. L'aveugle qui soufflait dans trois saxophones en même temps jouait également de sifflets nasaux et de la flûte, et il en jouait tellement bien qu'il composa tout un morceau à interpréter avec le nez. Les images sont assez impressionnantes, il n'empêche, le son se suffit aussi à lui-même. Il faut dire qu'il y a une chose pratique quand on joue de la flûte avec son nez, c'est qu'on peut plus facilement chanter, voire scatter en même temps. Quant à la corona-compatibilité de ce genre de performance, s'il avait encore été en vie, je suis sûr qu'il aurait improvisé une ode au gel hydroalcoolique en jouant de trois saxophones derrière son masque chirurgical, Roland Kirk. Oh, C'est le plus long solo de flûte dans le nez que je connaisse personnellement.
Mais dites-moi David, à s'introduire des trucs dans le nez, il risque d'éternuer en plein concert le garçon.
Les éternuements en musique, c'est assez rare. Bon allez, on en a quand même un pour vous. Dans Émilie Jolie, elle rencontre la compagnie des lapins bleus, qui deviennent tout rouges quand ils attrapent un rhume.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le vent qui souffle, c'est la pluie qui tombe, c'est le tonnerre qui gronde, les lapins bleus vont s'enrhumer. Ça y est.
Voilà, des études supérieures de musicologie et c'est à peu près tout ce qui nous est venu comme souvenir d'éternuement dans une chanson. En revanche, des toux sautements, des raquements de gorge, des molars qu'on va chercher tout au fond, ça, on en a quelques-uns. Le molar, c'est Nick Cave, et oui, qu'on connaît désormais nettement plus élégant, qui nous l'offre au début de Scum.
Les Anglais New Order au début de Loveless nous font entendre une toux nettement plus discrète.
Black Sabbath en était donné à cœur joie au début de Sweet Leaf, faisant scratcher une bonne vieille toux de fumeur.
Et Led Zepp joua également le jeu, vous l'avez tous entendu des dizaines de fois, en intro à Whole Lotta Love, une petite expectoration.
Sinon, il y a celle qu'un prix Nobel enregistra en 1963. Ça n'était pas sa première chanson, mais son premier morceau instrumental, et ça tout l'empêcha d'obtenir une seule bonne prise. La chanson réapparaîtra en 2010 sous le nom de The Cough Song.
Before I coughed. It fades out.
Thanks a lot. I'll note here, faded cough. She died
of okay.
Bob Dylan, un prix Nobel qui tousse. En matière de toute humeur, la palme revient quand même naturellement à Jacques Higelin. Pardon, à la fin de Cigarette.
Je suis amoureux d'une cigarette. Et je suis amoureux d'une cigarette.
Si la chanson commence par une véritable déclaration d'amour au tabac, elle s'achève sur des onomatopées moins affriolantes. Ceci explique cela. On vous rappelle ce duo exquis avec Brigitte Fontaine, alors que les deux étaient encore jeunes et fringants. Vous l'avez sans doute réentendu durant le confinement, la grippe.
«
dit mon amant ce soir.
Ça vous donne un joli teint, ça vous va mieux que le noir. Ma grippe vous va très bien.
Souffrez que je tousse un peu, lui ai-je dit d'un air doux. Souffrez que je souffre un peu, j'ai parfois très mauvais goût. Souffrez que je souffre un peu.
Quand vous souffrez, mon ami,
m'a répondu mon amant,
vous ressemblez à la pluie, je trouve ça très saillant. Quand vous souffrez, mon ami,
j'ai un peu peur et je dis que les larmes me vieillissent. Et j'ai un peu peur aussi que la fièvre m'enlaidisse. J'ai un peu peur et je dis.
Elles vous vont comme un gant, vous savez bien que vos larmes me plaisent beaucoup vraiment. Votre fièvre a bien du charme, elles vous vont comme un gang, 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 gang.
Ah vraiment, je suis trop maigre, je sens que je m'affaiblis. N'avez-vous pas de vinaigre? Voyez mes bras et je dis. Ah vraiment, je suis trop maigre.
Mais ces os vous vont très bien,
m'a répondu mon amant.
Ne vous inquiétez de rien, ça vous donne un air troublant. La mort vous ira très bien.
France Culture, les consultations musicales de David Unger et Romain Boulet. À chaque organe, sa mélodie, à chaque maladie, son refrain.
Romain, vous avez enfin réussi à dénicher un joli message sur un forum de santé. Il s'agit de Maeva 04.
Je tousse depuis 2 mois suite à un chagrin d'amour. Ce n'est pas la première fois et rien n'y fait. Médicaments, antibiotiques, médecine douce. Je pense que l'amour blessé peut rendre malade, que les sentiments bafoués blessent profondément. Les bronches sont liées au chagrin.
Maeva, les bronches et l'amour nous rappellent L'écume des jours, le roman de Boris Vian, dans lequel Chloé, démesurément amoureuse, s'éteint doucement, le poumon rongé par un nénuphar. Pour la sauver, elle se voit prescrire un traitement à base de fleurs qui va finir par ruiner son mari.
Cette maladie imaginaire, sans doute une métaphore de la maladie cardiaque qui emportera Boris Vian, pourrait peut-être se soigner avec un poumon d'acier. On pense ici au poumon d'acier chanté par Radiohead. Ça n'est ni très agréable, ni très pratique, mais ça peut rendre très mélancolique.
Yeah.
Radiohead Iron Lung, un titre pour se venger d'une chanson. Le poumon d'acier, ici, c'est leur tube précédent, Creep, qui les propulsa au sommet, mais qu'ils désavouèrent presque aussitôt. Quand un tube arrive trop tôt, il peut vous rendre malade.
Je vous interromps, Romain, pour vous demander si vous savez qui a inventé le mot tube.
Mais non, mais je me le demandais encore ce matin.
Les auditeurs vont enfin apprendre un truc dans cette émission. C'est Boris Vian, directeur artistique chez Philips au milieu des années 50. L'idée lui est venue des chansons à succès dont les paroles seraient creuses, selon lui, creuses comme un tube.
Alors, pour reprendre, le poumon d'acier, c'est donc à la fois l'appareil grâce auquel Radiohead respire, mais aussi celui qui les étouffe. C'est d'ailleurs ce que racontait le clip. Un seul plan. Le visage de Thom Yorke dans un casque spatial et de l'eau qui monte progressivement tandis qu'il continue à chanter.
Mais sortons des poumons d'acier pour nous intéresser aux vrais poumons, ou plutôt pour nous intéresser de près au trajet de l'oxygène dans le corps.
Les alvéoles pulmonaires. C'est là que le sang va échanger le gaz carbonique rejeté par les cellules contre l'oxygène dont elles vont avoir besoin pour accomplir leur travail. Les alvéoles, combien y en a-t-il ? 300 millions ? 600 ? 800 millions ? Les opinions divergent. Leur surface, elle, est de l'ordre de 70 à 90 mètres carrés. 50 fois celle du corps humain.
Vous venez d'entendre Roger Carrel nous rappeler le nombre incommensurable d'alvéoles qui mènent à nos poumons. Vous avez surtout dans la tête, et pour le reste de la journée, le générique d'Il était une fois la vie.
La vie, 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 la vie.
Et voici la vie,
la vie, la vie.
La belle vie, toute pressée d'éclore. Le monde nous convie.
Et voici la vie.
À de nouvelles aurores. Il nous donne des lendemains qui chantent. Et le soleil qui nous éblouit. L'air vif nous enchante.
La vie,
la vie, la vie composée par...
Mais non.
Mais si.
Lui.
Mais oui.
L'homme aux trois Oscars.
Et aux trois Césars.
Le compositeur des films de Jacques Demy.
Michel Legrand Pardy.
Lui qui aimait tant les motifs répétitifs, il s'en est donné à cœur joie. Mais sortons des sentiers battus et écoutons la bande originale de l'épisode sur l'oxygène, justement nettement plus jazzy. Serge Gainsbourg, qui ne devait pas trop regarder ce dessin animé, disait qu'on n'a qu'une seule route jusqu'au poumon, autant qu'elle soit goudronnée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, David, c'est un clavier qui incarne les petites bulles bleutées que l'on voyait s'introduire dans les narines et les bouches de nos personnages. Et moi, les claviers, les rangées de claviers, les pyramides de claviers, ça m'évoque...
Jean-Michel Jarre, pardi, qui 10 ans avant avait carrément préempté la marque Oxygène. Il en respira les teneurs électroniques jusqu'au surmenage, il en inonda de sons et de lumière les villes du monde entier. Et oui, à commencer par Paris, où il inaugura le 14 juillet 1979 son concept de ville en concert face à 1 million de spectateurs médusés sur la place de la Concorde.
Thank you.
Dans l'album original en 1976, 6 parties différentes se partageaient le même nom, Oxygène. Avant qu'il décide d'en faire une trilogie qu'il sortit en 2016, donc 3 x 6, j'imagine 18, mais non, désormais c'est 20 morceaux de Jean-Michel Jarre qui s'intitule Oxygène.
Romain, je vous propose un plaisir étrange, je vous propose de priver nos oreilles et notre cerveau d'oxygène.
Priver son cerveau d'oxygène peut décupler le plaisir sexuel. On appelle cela l'asphyxiophilie, cette sensation de suffocation, ce vertige qui propose un état de transe au moment de la montée de l'orgasme. C'est ce que chantait Death in Vegas, groupe électronique anglais du début des années 2000, sur leur tube charnel et quelque peu salace, « Tes mains autour de mon cou ». Un titre construit sur une irrésistible montée de batterie et de basse électronique qui encadre ce qui ressemble fort à une alarme industrielle. Attention, la pratique n'est pas sans risque. On dit que Gérard de Nerval en est mort, pendu au barreau d'une grille de Paris.
Death in Vegas, Hands Around My Throat, les mains autour de mon cou, que nous desserrons pour parvenir au poumon. Enfin presque, qu'est-ce qu'on l'a fait ça. Puisqu'avant, l'oxygène passe par le pharynx avant d'arriver au poumon, puis par le larynx, deux organes cartilagineux qu'on a assez peu chantés, on doit l'avouer. Mais merci le jazz, ou plutôt les musiques improvisées new-yorkaises des années 80, rien ne leur échappe. Elliot Sharp est un guitariste qui marqua cette période foisonnante, qui vit émerger nombre de musiciens expérimentaux. John Lurie, John Zorn, Bill Frisell, Bill Laswell et leurs amis de la Knitting Factory, salle de concert culte du Lower East Side. L'extrait que nous vous diffusons ici provient tout droit de Larynx, une composition en 6 parties dans laquelle Elliot Sharp fait hurler sa guitare comme d'autres souffleraient dans un instrument à cuivre. Faire sonner dans un cuivre. Elliot Sharp fait hurler sa guitare comme d'autres souffleraient dans un cuivre, faire sonner ses cordes comme si elles réagissaient au souffle du musicien. Voilà le genre de concept qu'aime éprouver ce genre d'artiste.
J'ai surtout l'impression qu'il a un piston coincé au fond de la gorge.
Merci Romain pour cette blague jazzophobe. Plus précisément dans le larynx, l'organe qui renferme les cordes vocales, l'organe de la parole et de la voix. C'est la partie anatomique la plus importante pour les chanteurs d'opéra. On dit que Enrico Caruso rentra dans la légende lorsqu'un médecin lui apprit à basculer en avant son larynx. Ce simple conseil physiologique lui permettra de libérer les quelques octaves qui lui manquaient. On entend Caruso chanter en français Eugène Onéguine, l'opéra de Tchaïkovski, dans lequel le héros meurt d'être délaissé par la femme qu'il aime.
À l'opéra, on meurt souvent assassiné.
La plupart du temps par une femme.
On meurt parfois suicidé.
Surtout si on est une femme.
Et on meurt aussi de maladie.
Notamment quand on est une femme.
À l'opéra, quand on est une femme, on est mal barré. La maladie reine de l'art lyrique, c'est la tuberculose. C'est un peu paradoxal d'imaginer des héroïnes hurlant leur amour et leur haine à plein poumon, précisément atteintes d'une affection respiratoire. À mon sens, ça s'explique d'abord parce qu'on met plus de temps à en mourir. C'est sûr qu'une héroïne atteinte de peste bubonique qui partirait en 24 heures, ce serait plus difficile à mettre en scène. Ensuite, parce que les symptômes s'accordent parfaitement avec un drame chanté. On reste digne, on tousse un peu, on n'est pas plein de boutons ou atteint de coliques néphrétiques.
La tuberculose, c'est la grande maladie du 19e siècle. On estime que dans le monde occidental, une personne sur quatre a été contaminée. Comme le traitement antibiotique n'a été découvert qu'en 1944, ça faisait beaucoup de monde qui toussait. Écoutons d'abord mourir Violetta, alias Traviata, dans l'opéra éponyme de Verdi, composé en 1853 et adapté de la Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas. Violetta est une courtisane.
Oh, le joli mot que voilà pour dire qu'elle vend ses charmes.
Atteinte d'une maladie de poitrine.
Oh, le joli mot que voilà pour dire tuberculose.
La tuberculose est ici le résultat de la vie dissolue et immorale que la jeune femme a menée. C'est une forme de punition divine.
On écoute Anna Netrebko faire ses adieux à la vie au début de l'acte 3.
L'action contre la tuberculose a longtemps été préventive, faute de remède. C'est ainsi que pendant l'entre-deux-guerres, la France reprend une idée danoise du début du siècle, le timbre anti-tuberculeux. Il s'agit d'une vignette annuelle sans aucune valeur postale, diffusée sur tout le territoire national. Son objectif est à la fois financier par les profits qu'il génère et éducatif par son iconographie. Par exemple, des enfants qui se lavent les mains ou des malades en maison de repos.
Ça me rappelle quelque chose, une forme de vignette de la Croix-Rouge en somme.
Sauf qu'à l'époque, ce n'est pas Adrien Acarambeu qui en fait la promotion, mais un gros monsieur à l'accent paysan et aux moustaches en forme de guidon de vélo.
Écoutons Georges Schepfer, humoriste et chansonnier, nous en conter les bienfaits dans les années 30. La chanson était diffusée dans les cinémas et il était formellement interdit aux chanteurs de rue de la reprendre pour faire la quête sous peine de poursuite judiciaire.
Sur les plages roses et nues, le tacle à la lèvre vermeille, riant de rires ingénus dont la gaieté nous émerveille. Que de beaux enfants chaque été, nous voyons jouer, se poursuivre, tout éblouissant de santé et chantant le bonheur de vivre. Est-il spectacle le plus charmant pour la maman, même s'il n'est pas toujours sage que voir gaiement rire devant elle au passage en garnement dont la force croît avec l'âge.
La tuberculose tue nettement moins aujourd'hui qu'en 1930. Mais David, vous avez encore quelques conseils avisés pour nos amis atteints de maladies pulmonaires. C'est votre instant VRP.
Où partiriez-vous, Romain, pour vous remettre d'une bonne vieille tuberculose? Les VRP, vous aurez bien proposé le sud de la France et sa belle ville de Cannes, mais l'ambiance n'y est pas trop à leur goût.
Cannes, ville de vieux, où des cadavres blêmes gisent dans les rues farcies de chrysanthèmes. Cannes, ville de Bourges, où des enfants obèses se gavent de glucose dans de trop longues chaises.
Et oui, les VRP, non contents de railler régulièrement les plus malheureux d'entre nous, malades, handicapés, j'en passe et des estropiés, les VRP s'en sont aussi pris aux régions de France. Moquer une ville en chanson est un sport national auquel les meilleurs se sont adonnés. Bray et Vesoul, Bourville et Maubeuge, les Vampas et Aubusson, Trust et Saumur. Amiens, c'est aussi le tien des Fatal Picard. Alors me direz-vous que les Fatal Picard rient d'Amiens, pourquoi pas, mais que les VRP nous décrivent la Picardie comme la Côte d'Azur à moitié prix? Ridiculiser son village passe encore, mais ridiculiser le village d'à côté, c'est moins fair play. Il n'empêche, les VRP ont mis toutes les chances de leur côté pour nous décrire une région qui n'est plus, et oui, on appelle ça aujourd'hui les Hauts-de-France, avec leurs instruments faits de briques et de brocs, une contrebassine, contrebasse composée d'une bassine, d'un manche à balai et de ficelles mollement tendues, mais aussi un xylophone cassé, une guimbarde pour édenter ou un banjo pour manchot. Écoutez donc les VRP, inspirez puissamment qu'est-ce qu'on leur a fait le bon air des départementales polluées qui mènent au bord de mer, écoutez-les pleurer à l'enterrement de leur grand-mère avec ce verre, l'un des plus beaux de l'histoire de la chanson française. Après le cimetière, un bon plateau de fruits de mer au restaurant du port. Peut-être qu'on a eu tort, les VRP.
Bienvenue en Picardie, les vacances toujours réussies. Venez respirer le grand air derrière la centrale nucléaire. Bienvenue en Picardie, la Côte d'Azur à moitié prix. Plus de place dans le camping, il faut dormir sur le parking.
Sur le parking.
11 mois de l'année, passez à travailler. Un repos bien mérité, vive les congés payés. Accident mortel, porte de la chapelle. La caravane est ruinée et la grand-mère est enterré, oui, enterré en Picardie. Enterré en Picardie, fini les vacances pour mamie. Elle qui aimait dans les fleurs, elle a de la chance dans son malheur. Enterré en Picardie, c'est le bonheur pour la vie. Pas de problème pour l'enterrement, l'assurance marche à 100%. Cimetière, un bon plateau de fruits de mer au restaurant du port. Peut-être qu'on a eu tort sur la plage l'après-midi. Le doute n'est plus permis, on court à la pharmacie. Voilà la pluie, quel ennui en Picardie.
Avant de se quitter, on a un dernier coup de fil à passer. Sheila, en pleine période disco, celle qui lui vaudra de collaborer avec Nile Rodgers et le groupe Chic, celle qui la propulsera à l'international jusqu'à entrer dans les charts américains. Sheila est pourtant en pleine dépression. C'est en tout cas ce qu'elle chante à son chéri au sortir de son rendez-vous chez le docteur, et apparemment, ça vient du cœur.
Allô?
Allô chéri? Bonjour, c'est moi. Je sors de chez le docteur. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que j'étais au bord de la dépression. Tu vas sourire. Je souffre d'une peine intérieure très profonde. Oh, c'est pas très grave. Mais j'ai un manque d'affection.
C'est le cœur, les ordres du docteur sont...
Une émission réalisée aujourd'hui par un Olivier Bétard aux hématocrites enthousiasmantes et mise au son par un Nasser Moussaoui à l'encéphalogramme jubilatoire.
Aujourd'hui, on vous a parlé du cœur, du nez, de l'oxygène, de la respiration, de la gorge, du larynx, de la toux, de la grippe, de la tuberculose et de la picardie. Cette émission est disponible en podcast sur le site medicimo.com/franceculture/docteur-esgrave/gélarade qui se dilate /www.fr. On remercie Alban Omar pour sa suggestion discographique et on vous retrouve demain pour une spéciale système digestif.
Émission contenant des actifs euphorisants, ne pas associer avec d'autres émissions qui en contiennent pas avant 5 ans, lire attentivement la notice, demander conseil à votre pharmacien si les symptômes persistent, consultez votre disquaire.